il n'est pas dans mon habitude, disons, de venir imposer ma voix et ses trajectoires à un public ou à des personnes, à des yin ou à des yang qui se trouvent là. Et disons que c'est plutôt leur enseignement, même si, comme lorsque je fais une pièce de théâtre, je compte l'orchestrer, essayer d'y apporter mon savoir, mais disons que et ce soir il faut que, il y a aucune raison de rompre la coutume, c'est à vous à parler et moi j'essaierai de vous répondre. Alors auparavant il faudrait quand même que je me présente un tout petit peu, hein, parce que bon, les idées de résistance, les idées d'un combat, etc., qui me suivent, depuis le temps où ça a eu lieu, et donc disons toutes ces idées restent malgré tout, assez coincées, d'où explication, assez coincées dans la société actuelle. C'est-à-dire que la société actuelle n'est pas faite pour la poésie comme l'était faite la résistance, et comme d'un côté tragique, hein, l'ont été les camps de concentration. J'en ai connu trois. Et non, c'est autre chose. Hein? La société spectaculaire et marchande a remplacé la pensée, a remplacé l'idée par quoi ? Par le billet de banque. C'est lui qui crée les valeurs. C'est plus telle expression, tel vers d'une poésie. Non. C'est ça. C'est tout. Et alors, il est évident que toutes les fois que j'essaie de m'exprimer, je suis obligé, disons, de faire un peu d'essayer d'éclaircir. Qu'est-ce que je fais ici? C'est pas en fonction du billet de banque. Non. C'est à cause de vous. Mais c'est qui, vous? Alors, dites-le. Moi, c'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire que, là, je vais simplement, à l'essentiel, hein, vous dire, hein, que moi, je me bats pour le verbe. Je me bats pour le mot. C'est là qu'est la vérité. Le mot concret qui vient de toi. Va de... Ou d'Internet. Non. Le mot que l'on crée. Hein, que les peuples ont créé. C'est ça le peuple dans la création de mots. Pas dans le populisme, qui est une façon vulgaire de traiter son semblable. Et alors, simplement, pour me présenter, hein, vous dire, moi, dans mon expérience, quelle a été ma première victoire, et si j'arrive à me souvenir, même vous dire la deuxième victoire. Et pourquoi? Hein? Par le mot. Mais pourquoi? Ben, c'est très simple. C'est que cette première victoire a eu lieu le jour de mon arrestation. C'était dans le maquis de la Berbérolle. Et dans ce maquis de la Berbérolle, on a été vendu par les gens du... Bon, peu importe qui, on a été vendu. Alors les CRS sont arrivés un matin. Alors, il faut vous dire que nous, dans notre maquis, c'était un maquis, c'est le premier de France, dans le Maquis de la Berbérolle, hein, mais un peu spécial. Primo, on n'avait pas d'armes. Alors qu'est-ce qu'on faisait dans le Maquis? Eh bien, on lisait les lettres de Gramsci aux arbres. Bon, au début, en tout et pour tout, le Maquis, on était quatre. Hein? Quatre. Mais pas nombreux. À la Libération, on avait 50 000, rien qu'à Tarnac. Qui est tout près de... Bon, 50 000. Tout le monde était résistant à la Libération. Tout le monde. Tous les côtés, etc. Et d'autant plus cette solitude dans laquelle, disons, l'entrée dans la résistance... bon, pour moi, c'était facile. Hein, c'était résister par le poème, mais du côté de ceux qui pensaient que le langage politique avait une influence ou quoi, ben à ce moment-là, on était très, très, très dans le Maquis, on était très embêtés. Et pourquoi? Parce que il y avait le pacte germano-soviétique, et ce qui fait qu'on avait contre nous, non pas la droite, parce qu'il y avait les cagoulards qui s'étaient rangés de notre côté, qui étaient vraiment pas des gens fréquentables, mais de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait à l'époque, qui n'avait rien à voir, avec son fondateur, qui n'avait rien à voir avec Babeuf, évidemment, auquel la révolution a coupé la tête. Et donc, les ennemis, et qui nous traitaient de fous dans les bois. Et ça a été tout le drame de Guingouin en Corrèze, là où j'étais. Alors, de tous les côtés, il y avait élimination, etc. Et comment rendre cette idée de résistance possible? Alors, il n'y avait qu'une seule chose, c'était Londres qui envoyait des messages quotidiennement, presque tous les soirs, les Français parlent au français. Et il y avait Sol-Sol-Mi qui servait d'indicatif, et ensuite, d'après ce qui était dit, mais qu'est-ce qu'on pouvait, nous, au milieu de nos arbres, etc. Leur parler. Et il y avait des soirs où c'était formidable, pour peu qu'il y ait un souffle, toutes ces branches qui nous répondaient, etc. Enfin, on était dans une fête... mais idéologique, enfin. Parce que, évidemment, on n'a pas oublié, entre-temps, de quelques lectures de Blanqui, qui est très importante. Et puis, il fallait quand même aller chercher quelques amis d'aujourd'hui. C'était le cas de Henri Michaud, qu'on a lu aux arbres. Hein, donc, disons que dans ce travail, ben, on a été dénoncé, pris, enfin, etc. On est parti. Alors à ce moment-là, j'étais un peu jeune, 16 ans et demi. Et je suis parti comme ça, là, même pas le temps de mettre, parce que le premier Maquis, on se l'est creusé nous-mêmes. Dans la forêt de la Berbérolle, on se l'est creusé, et puis là-dessus en forme de T. Et je dois dire que ça a été un moment pour nous glorieux, parce que par la suite, les années passant, etc., hein, il y a eu des combattants au Vietnam qui étaient de passage en France, qui sont venus voir notre Maquis et qui s'en sont inspirés. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout dit par le chef d'État vietnamien, à la radio, et nous remercions d'avoir à notre façon, en dépit du futur ou du passé ou du présent, hein, d'avoir collaboré avec eux et d'avoir été leurs compagnons de combat. Voilà. Et ça, ce genre de choses ne sont compréhensibles que par les mots, que par le verbe. C'est par là qu'on communique. Si j'avais pas les mots, qu'est-ce qu'on ferait? C'est ça, la chose précieuse du mot, du verbe. C'est que ça permet de passer de l'un à l'autre. Et que le combat de l'un, hein, peut devenir le combat de l'autre. Et c'est ainsi que s'est organisée la résistance. Et c'est le même système qui a joué au Vietnam en son temps. Et disons que, pour en venir donc à ce que je vous disais, mes deux victoires par les mots sont passées, disons, à 24 heures de distance. Une, la première, ça a été, au moment où, passant, pris par un GMR, parce que dans l'arrestation, tout en lançant des explosifs ou quoi, ils n'ont blessé qu'un seul d'entre nous, c'était un des frères Claravel, qui était un des quatre du maquis, etc. Mais on était relativement indemne, à part l'émotion, le choc, etc. Et donc, main en l'air, parce que j'arrive devant un galonné, hein, un colonel, c'était lui qui commandait l'expédition qu'il avait fait dans le maquis. Mais sauf que lui était sur le bord de la route avec tous les camions qui avaient amené les troupes et qui attendaient pour les recharger une fois l'opération finie. Alors j'arrive comme ça. Et brusquement, le commandant, le colonel, se tourne. Oh ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu allais foutre dans le maquis ? Maman, gamin. Et si vous pouvez répondre ? Et à ce moment-là, la forêt a répondu. Hein ? Il y a un rouge-gorge qui s'est mis à chanter. Formidable. Alors, moi, qui était incapable de trouver une réponse, qu'est-ce que j'allais foutre dans le maquis, à 16 ans et demi, qu'est-ce que j'allais y faire? Et voilà que le rouge-gorge répondait là-haut. Et alors, évidemment, j'ai répondu au commandant. Et lui, qu'est-ce qu'il y fout? Ah, il s'est fâché, il a commencé à me donner un coup de pied, là, dont je porte encore là, etc., un coup de pied dans le genou, et puis il a commencé à taper, à cogner, hein, à tel point que celui qui me gardait avec la mitraillette, qui a dit, laissez-le mon commandant, j'ai un fils comme lui, il va à l'école en ce moment. Pardon, qui m'est répondu, qu'est-ce qu'il allait foutre dans le maquis? Et à ce moment-là, et je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi j'ai répondu ça. Moi, j'ai le besoin de dire des mots, de me sauver en quelque sorte par les mots, par c'était mon seul moyen de défense, enfin contre la situation telle qu'elle se présentait. Et alors, je me suis levé d'un seul coup, comme ça, et puis j'ai crié au commandant, « Faire tomber Dieu dans le temps !» Eh ? Eh ? Oh ! Mais il est fou ! Mais il est fou ! Occupez-vous-en ! Et il a tourné le dos, et il a remonté les camions, bon... ça m'a pas libéré, ça m'a pas. Et ensuite, les autres sont arrêtés, etc. Et je suis parti pour la gendarmerie du sel où avaient lieu les interrogatoires. Parce que pour aller en prison à Tulle, on y est allé, il fallait d'abord qu'il y ait une raison pour laquelle. Et donc, il y avait un interrogatoire qui était fait à la gendarmerie du sel à ce moment-là. Et donc, je suis arrivé et. À Ussel, mais j'avais remporté ma première victoire sur le colonel, hein, avec des mots, rien d'autre. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Pourquoi a-t-il arrêté de fouiller? Parce qu'il a dit il est fou. Et il est fou à cause de quoi? Des mots que j'avais prononcés. Donc, hein, pour moi, il devenait évident et, hein, que le combat des mots, c'est-à-dire la poésie, doit être toujours présente aux côtés de l'homme. S'il veut être ce qu'il croit être, parce que là aussi c'est un autre problème, hein, un autre problème. Donc, on arrive à Ussel, et alors là commence l'interrogatoire. Alors, chacun séparé avec, disons, un civil qui était là, qui demandait pour que. Alors, la chose qui les intéressait, c'était la ferme de Pierre-Élie, la ferme de Pierre-Élie, qui était celui qui nous avait cédé le morceau de forêt dans lequel on avait fait notre trou. Il y est toujours, hein, pour aller le voir le trou, hein, et il y est toujours, il se comble peu à peu, mais il y est toujours, hein, forêt de la Berbérolle. Et donc disons que là dans au moment de l'interrogatoire, évidemment, tout portait sur Pierre-Élie, nos rapports avec la ferme, comment, etc. On n'allait quand même pas trahir. C'est terrible, les interrogatoires. Essayez de tenir le coup lorsqu'on vous frappe. Et puis, il y a des endroits sur lesquels on frappe qui sont... non, mais tout, même des aveux, plutôt que de continuer à subir ce genre de choses. Et là, le côté folie s'empare... On ferait n'importe quoi, enfin, c'est très, très, très... Et pour moi, hein, disons, comment éviter de parler de Pierre-Élie, enfin, etc. Disons que le fait qu'on m'interroge là-dessus a fait, disons, a fait reprendre vie, en quelque sorte... à la fille du père Élie, qui, elle, c'était elle qui nous servait de contact, etc., qui a été pour la résistance quelqu'un de formidable. Enfin. Et donc, la fille du père Élie, et évidemment, je ne sais pas si c'était la solitude du maquis, qu'est-ce que c'était, le, hein. Mais elle était fort jolie. Et vous savez, dans la solitude du maquis, après la lecture aux arbres, on regardait un peu du côté de la ferme. Enfin, et ça, une chose humaine, compréhensible, hein, je crois que c'est une chose que vous comprenez tous. Hein. Vous êtes tous tombés amoureux à un moment donné. Enfin, hein. Et donc, il y a eu le rappel d'elle et d'un poème que je lui avais lu. Parce qu'en allant chercher, on était allé chercher du du papier, parce que bon, et c'était moi qui avais été envoyé, donc à l'entrée, bon, ils étaient à table tous, et je me suis mis à réciter le poème. Et alors du coup, ce poème, mais alors qu'il fallait parler sur la torture de Pierre Elie, des gens qui étaient dans la ferme, etc., ça fait remonter le poème, hein, à la fille du père Elie, comme ça. Et alors devant le flic, je commence. Ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres, miroir de mon étoile, asile éclairé. Tes yeux, plus solennels de se voir adorer, temple où le silence est le secret d'entendre. Quelle île nous conçut des strophes de la mer, onde où l'onde s'enroule à la houle d'une onde. Les vagues de nos soirs expirent sur le monde et regonflent en nous leurs eaux couleur de chair. Un souffle d'hilereuse et de santal soulève tes cheveux innombrables ailes. Et etc. Enfin bon, oui, le machin. Hein. Arrêtez, arrêtez! Il me prend pour un pédé! Hein? Et bon, il est parti, il a claqué la porte, je suis resté tout seul. Et ça a été ma deuxième victoire. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée tout à l'heure. C'est, hein, autant vous rappeler comment il était fait, le poème que Dieu, dans le temps, était suivi d'un poème. Alors c'est là, l'autre criait que j'étais fou, et occupez-vous-en, etc. Alors le poème, parce que oui, ça date d'il y a quelques années, enfin tout ça. C'était en 42. Oui, alors me souvenir de tout, à un âge où la mémoire fout le camp. C'est... Mais le, oui, j'ai noté le début là. Hein, c'était l'adresse, une adresse que j'avais faite aux arbres, justement dans notre dialogue avec les arbres, pour pouvoir parler avec leur verticalité, qui était la verticalité de leur nous apporter moralement beaucoup. Et alors c'est cette, voyez, cet appel, cette nocturne océan, peuplé de sphinx brumeux, où s'agrippe la main sanglante des prières. Nous ignorons le cri des cataclysmes anxieux, propulsés à travers l'effondrement des airs, sans être accompagnés par un écho d'adieu. Mais nous avons reçu de lumineuses portes l'ennui originel d'un mystérieux Adam. Sans lutte lointain, sentait le flux de nos cohortes, et nous avons pleuré dans les soirs humiliants, les matins sans soleil, jonchés d'étoiles mortes. Voilà, c'est ce qui a fait dire au colonel que j'étais fou, et comme ça il m'a foutu la paix. Et c'est mes deux, j'en ai eu quelques-unes d'autres, mais je ne veux pas vous écraser avec ça, parce que il y avait évidemment comment j'ai résisté en camp de concentration. Comment? Évidemment, par la poésie. Mais j'avais cette force quand même, c'est-à-dire, vous voyez, là. L'écoute. Là, je vais compter jusqu'à 6. Oui, 6. Alors, comme ça. Vous voyez ? Et sous les bras, je pouvais compter sous mes côtes. Et alors, on marchait, on avançait, et j'avais les doigts sous les côtes. Et alors, ce qui m'a donné 6. Et 6, l'idée de l'Alexandrin. 6, césure, et suite de. Et alors, l'idée d'Alexandrin s'est associée à l'idée pour favoriser la mémoire, qu'il fallait une rime. Et alors là, je suis allé chercher dans les Quinte Rime de Dante Alighieri. Dont j'ai déjà d'ailleurs, même ça c'est une autre histoire, c'était pour les miens. Et donc, dans la lumière, les Quinte Rime, c'est-à-dire que une strophe est faite d'une rime masculine, féminine, masculine, féminine, masculine. Et la strophe d'après, c'est tout le contraire. C'est féminin, masculin, féminin, masculin, féminin. Et c'est ainsi. Et c'est ainsi que je faisais, hein, comme ça, alors, j'écrivais mes poèmes en camp de concentration. Voilà. Et on marchait, etc. Et en même temps, ça me donnait une distance par rapport au contexte qui était toujours effroyable. Enfin, hein, et au contraire, chercher dans le contexte de quoi le dépasser. Là, en me servant de lui. Un peu comme vous connaissez cette chose merveilleuse. Elle est morte au camp d'Auschwitz, c'est une fille, Eti Illezum, qui est morte à Auschwitz. Mais elle est morte comment, hein? Elle était partie, Eti était partie volontaire dans le camp. C'est-à-dire, c'était en Hollande, à Amsterdam, il y avait un lieu où. Un camp qu'on avait créé tout près d'Amsterdam et dans lequel on mettait surtout les juifs, etc. Et puis de là, on déportait à Auschwitz. Et c'est dans ce camp que s'est inscrite comme volontaire. Hein? Parce que, disons, ses semblables avaient besoin d'elle. Hein? Qu'il fallait. Et donc il fallait les secourir et pas. Et donc, elle est partie volontaire à Auschwitz, et là-bas, Auschwitz, évidemment. Il faut pas la haine. Il faut, hein, et jusqu'au bout, la tenue, le machin, il faut prendre exemple sur ceux qui nous entourent. Regardez. Vous ne voyez que la chambre à gaz, vous ne voyez que le Birkenau, vous ne voyez que, etc. Non, c'est pas ça. Hein? Regardez tout autour de vous. Les arbres, qu'est-ce qu'ils apportent? La joie! Nous devons être comme les arbres qui nous entourent, de tous les côtés. Bon, elle a été envoyée au crématoire, mais n'empêche que les mots ont été prononcés. En plein lieu d'extermination. Et alors, disons, c'est tout ça, vous voyez, vous donnez quelques exemples, quoi, hein, pour savoir sur quoi, hein, se fait le combat. Le combat, c'est pas dans les poings, c'est pas. Et d'ailleurs, on va faire bientôt une exposition On a reçu une lettre, un peu lointain, du sous-commandant Marcos. Enfin, il s'appelle lui sous-commandant. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus que Marcos tout court. Une lettre nous disant que nous étions les deux seuls sur cette terre à mener le vrai combat. Et que le combat, c'est celui du Verbe. Et que lui, avec les Indiens, dans les Chiapas, pas d'armes, la poésie. Parce que les armes, c'est toujours en vue d'une prise de pouvoir. Et une prise de pouvoir, c'est toujours en vue de l'écrasement d'une forme de société par l'autre. Voilà. Hein? La poésie. Au qui passe en ce moment. Et qui est-ce qui fournit 100 kilos de riz à Cuba qui est encerclé par les Américains et par la pensée européenne? Parce qu'il n'y a pas un journal où on vous dise que Fidel Castro c'est un dictateur. C'est même dans le dictionnaire. Hein? Fidel Castro, dictateur. Voilà. Alors c'est cette possibilité merveilleuse que l'on a dans le mot d'être soi avec l'autre. C'est ça qui est merveilleux. Et que tous ensemble, on ne peut que s'aimer. Et c'est vrai. Il y a cette joie qui est celle des arbres, qui naît souvent des rencontres que nous faisons. Merci.
Moi qui suis le billet de banque. Non, je veux dire, c'est une boutade, sans être une boutade. C'est vrai que je suis. J'ai rencontré Armand Gatti. Alors d'abord, juste un petit plaisir sur Gatti, comme ça, avant que vous dire, quand j'ai rencontré Armand Gatti. Tout ce qu'il vous a raconté, là. Il va dans la prison de Tulle. Et dans la prison de Tulle, il y a beaucoup de choses qu'il pourrait aussi vous raconter à la prison, mais il y a une anecdote qu'il raconte. Il la raconte plus depuis quelques temps, mais enfin, il l'a raconté plein de fois, donc je la connais par cœur. Il y avait des gens qui étaient prisonniers avec lui, qui ne savaient pas ni lire ni écrire. Donc, il savait écrire, il n'était pas le seul, mais donc il y avait une espèce de cours d'alphabétisation. Et il y a un type qui, je me souviens pas le nom, en revanche, et qui il dit non, je veux pas aller au cours avec Gatti. Et alors on dit si, il écrit bien tout, il sait, non, je veux pas aller. Mais pourquoi? Il est fou. Et parce qu'il avait entendu l'histoire du etc., etc., et donc il voulait absolument pas. Il dit, si j'apprends à écrire, je vais devenir fou comme lui. Voilà. Donc, tu t'en rappelles de cette histoire? Non, t'en rappelles plus, mais tu l'as raconté fort souvent. Et je le crois tout à fait.
Il y a 85 ans qui...
Voilà, donc... On parlait du Vietnam tout à l'heure, et j'ai organisé la tournée du texte, du travail qu'il avait fait, qu'il avait créé à Toulouse, qui avait été financé par un groupe qui s'appelait le Collectif Intersyndical d'Action pour la Paix au Vietnam, qui regroupait le SNESUP, enfin tous les syndicats universitaires, voilà. Et qui avait trouvé de l'argent en rassemblant une série de peintres connus, Picasso, etc., etc. Et donc avec ces moyens-là, ils ont participé à la production d'un spectacle qui s'appelait V comme Vietnam, qui a été créé à Toulouse et qui a été tourné en 45 villes universitaires en 1967, au mois de mai, du mois de juin. 45 villes universitaires, puis pas seulement quelques villes supplémentaires qui n'étaient pas encore universitaires, comme Mâcon, par exemple. Je sais qu'on avait été joué là-bas. Voilà, et à partir de là, j'ai, des fois en faisant un peu de travail pour gagner ma vie, mais à partir de là, j'ai travaillé avec Gatti. Alors, travailler, à un moment donné, ce fut économique, mais bon, c'est un autre problème, c'est en plus. Mais donc, j'ai monté ces projets, j'ai participé à monter ces projets dans différents endroits, sachant. Alors après, c'est toute une histoire. Parce qu'en 1967, donc, et en 1968, il y a deux histoires comme ça qui sont intéressantes à raconter. C'est-à-dire que il écrit une pièce de théâtre qui s'appellera Les 13 soleils de la rue Saint-Blaise, et c'est pour moi dans l'histoire de Gatti, c'est un premier travail où effectivement il réunit un groupe de gens, et un groupe de gens qui est réuni par le théâtre de l'Est parisien sous l'initiative d'un écrivain, un journaliste à l'époque qui est devenu écrivain plus tard, qui est mort, qui s'appelait Émile Kopfermann, et Gatti est là, et il y a une commande qui lui est faite d'écrire un texte à partir de ce groupe de gens. Pourquoi la rue Saint-Blaise? Parce que c'est une double rue historique, historique par rapport à la Commune de Paris. C'est un des derniers endroits, c'est l'un des endroits de la fin de la Commune, enfin les dernières batailles, les toutes dernières. Enfin, la Commune est déjà morte totalement, mais le dernier jour de la semaine sanglante se déroule dans ce quartier-là. Et en même temps, c'est un quartier qui était en train de complètement d'être rasé, etc. On y mettait des tours, des buildings, etc. Donc c'est. Et donc les 13 soleils de la rue Saint-Blaise partent d'une histoire qui est tout à fait intéressante, d'autant plus qu'elle va être créée au mois de mars 1968. En 1968, c'est toujours important de marquer les dates, donc c'est au mois de mars. Et dans cette pièce, il y a, je ne vais pas la raconter, mais pour faire vite comme ça, il y a d'un côté la société de consommation, les vacances, etc. Enfin, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a la commune, et représentée comme ça symboliquement dans un décor assez beau par la montre de Eugène Varlin. Et donc c'est la confrontation de ces deux sociétés qui sont racontées sur scène. Et il y a un critique assez connu d'ailleurs qui est mort aussi maintenant, hélas, parce que c'était un type bien, en dehors qu'il était critique de théâtre, qui s'appelait Poirot Delpech, et qui, quand l'article sort, il dit quand même, donc au mois de mars 1968, c'est quand même étonnant de mettre une barre, parce que dans la pièce il y avait des barricades, évidemment, de mettre des barricades de pavés sur une scène de théâtre en 1968. Voilà. Et le mois de mai, et dans le texte, à un moment donné, c'est vrai que, parce que bon, il y a la société de quoi. Non, mais disons, c'est un peu plus tard, parce que la création a lieu au mois de mars, donc ça se joue, etc. Ça joue beaucoup, hein, ça va jouer pendant deux mois. Et il y a effectivement une phrase qui est intéressante qu'on retrouvera sur des murs. Je ne suis pas sûr que les gens qui l'aient écrit sur les murs aient vu le spectacle, mais justement, c'est aussi ça la poésie, c'est sous les pavés la plage. Qu'on retrouve dans le texte de Gatti, mais celui qui l'a écrit sur le mur, je ne suis pas du tout sûr qu'il ait été voir le spectacle des 13 soleils de la rue Saint-Blaise. Alors, ça, c'est un élément comme ça. Alors, à part ça, bon, la pièce, le théâtre fermera pendant le mois de mai, ce qui est quand même une idiotie, parce que c'est le sujet même du mois de mai était sur scène, mais bon, les théâtres, enfin bon, etc., etc. Et puis, en parlant de théâtre, il y a, quelques mois après, Gatti travaillera à un spectacle qui est La Passion du Général Franco, et qui changera de titre pour qu'effectivement, qu'il y ait éventuellement moins de problèmes, La Passion en violet, jaune et rouge, le drapeau républicain, c'est violet, jaune et rouge, non? Hein? Oui. Le drapeau républicain, c'est violet, jaune et rouge? Oui, ouais, c'est ça. et qui sera interdite à la demande du gouvernement espagnol dans une représentation dans un théâtre en France. Alors, juste une petite anecdote comme ça, c'est que les gens ne savent jamais d'ailleurs. Tous les théâtres nationaux, ils sont pas très nombreux, mais enfin, il y a 5 théâtres nationaux en France, et la programmation des théâtres nationaux est soumise au ministère. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a jamais eu de cas de censure, hein, celle de Gatti en étude, mais en général, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu d'autres, d'ailleurs. Et comme c'est un théâtre national, entièrement financé par l'État, à 100%, hein, comme c'est un théâtre national, le ministère doit donner son aval. Il y a un conflit à l'intérieur du ministère, enfin, pas du ministère, à l'intérieur du gouvernement. Malraux, ministre de la Culture, sera plutôt favorable à cette pièce, évidemment. Michel Debré, ministre des Affaires étrangères, sera tout à fait défavorable. Le général de Gaulle se fera porter le texte et téléphonera un jour à Malraux, enfin un jour, très rapidement à Malraux, en disant « Qu'est-ce que c'est que ce poète sulfureux ?» surchauffé, tu as raison. Qu'est-ce que c'est que ce poète surchauffé ? Mais est-ce qu'il veut ? Et Malraux disant à Gatti, l'appelant après, j'ai compris que le général avait choisi que la pièce ne soit pas jouée à cet endroit, au palais de Chaillot, au TNP à l'époque. Donc, et à partir de là, bon, dans ces années-là, il va travailler en Belgique, il travaille en Allemagne. Je vais pas rentrer comme ça trop dans le détail, mais simplement. Dans différentes productions, et tout particulièrement dans le Brabant Wallon, où il commencera vraiment à faire un travail formidable avec des groupes d'habitants dans les paysans du Brabant Wallon, qui donnera un spectacle dont le titre générique, c'était un spectacle sans spectateur où tous les âges de l'homme sont présents. Effectivement, c'était ça, c'était un truc, c'était un travail avec un groupe d'étudiants, des instituts de l'art de diffusion. Parmi les étudiants, d'ailleurs, il y a deux étudiants, peut-être que les noms vous diront quelque chose, parce que si vous allez au cinéma, ou si vous regardez le Festival de Cannes, une fois de temps en temps, il y a deux étudiants qui s'appellent les Frères d'Ardenne, voilà, qui étaient étudiants à ce moment-là chez Gatti.
Les Belges.
Ah, les Belges, oui, ils savent qu'ils sont Belges. S'ils connaissent les Frères d'Ardenne, ils savent qu'ils sont Belges. Et donc, à partir de... Et c'est un travail formidable d'écriture où il y a... Chacun des villages et se travaille autour d'un personnage qui a été choisi. Il y a un paysan, il y a un ouvrier, etc. Et il y a trois manières de présenter le travail, enfin l'écriture qui va se faire autour de ces gens-là. Une manière musicale, une manière théâtrale et une manière de grande marionnette. La marionnette, je crois, représentant le monde du travail, la partie musicale représentant son imaginaire et la partie théâtrale représentant son quotidien. Donc c'est des textes que Gatti écrit, mais avec un travail intéressant, c'est que tout le travail d'enquête est fait par ces étudiants qui reviennent, qui habitent en permanence sur le lieu, hein, je veux dire, enfin sur une ancienne école désaffectée qu'on nous avait prêtée. Et tout ce travail-là va déboucher sur une série de textes que Gatti va écrire, magnifique, et qui sera donc donné en une journée, depuis le matin jusqu'au soir, donc de village en village, parce que et qui débouchera à la fin de la journée dans un immense spectacle, dans une grande prairie, et d'où l'idée, un spectacle sans spectateur, parce que tout le monde participe, tout le monde à un moment donné a fait à manger, a amené les tracteurs, parce que c'est les tracteurs des paysans qui permettaient de faire ce grand circuit. Enfin, tout le monde était dans la création, hein, dans une place ou dans une autre, et où tous les âges de l'homme, parce que ça raconte des histoires qui vont des enfants à des personnes plus âgées, où tous les âges de l'homme seront présents. Et puis bon, il y aura plein de choses, mais si je vais pas tout vous raconter la vie de Gatti, ce serait beaucoup trop long, mais donc à partir des années 80 on s'installera à Toulouse, et là je travaillerai de manière plus intime avec lui, un plus intime dans le sens où je travaillerai qu'avec lui. Voilà, c'est en ça que je disais l'intimité. Et donc, et où effectivement à Toulouse, on va créer un lieu qui va s'appeler l'Archéoptérix. Et alors, j'aime beaucoup moi comme ça je vais m'arrêter là, mais la définition du lieu atelier de création populaire, l'Archéoptérix. Alors d'abord à Toulouse, le mot Archéoptérix, c'était pas toujours bien prononcé. En plus, ça avait plein de fautes d'orthographe. Il y avait un Y, il n'y avait pas d'Y, etc. Et pourquoi l'Archéoptérix? Parce que c'est un animal tout à fait passionnant. Il a 147 millions d'années. On en a trouvé très peu d'exemplaires dans le schisme bitumineux en Allemagne, en Chine, en Angleterre, en Angleterre aussi. Et c'est un animal qui était, c'est en ça d'ailleurs que Gatti l'avait choisi, qui était au croisement de la création. C'est-à-dire c'est le premier animal qui a des plumes, mais il a encore des traces de branchies. Il vole peut-être pas vraiment, mais ça c'est un autre problème. Des traces de branchies, ça veut dire qu'il sortait de la flotte. Donc un animal qui mélangeait, c'était au croisement de la création. Et cet atelier de création populaire, l'idée de cet atelier, c'était être un croisement de la création dans laquelle, autour de l'écriture, poésie, mais autour de l'écriture, se retrouvaient différents moyens de dessin, de graphisme, d'image, etc. Mais tout ça autour de l'écriture. Et autour de, pendant 4 ans, 3 ans, et un certain nombre de grands poètes qui ont été traités par Gatti dans le cadre d'activités qu'on a déroulées dans ce lieu pendant 3 ans. Puis on avait des problèmes d'argent, donc on est parti. Et donc on s'est retrouvés à Montreuil. Voilà, et puis elle a continué une aventure dans plein d'autres endroits, sachant qu'à Montreuil, on a récupéré un lieu qui se trouve... donc à Montreuil, mais qui se trouve intéressant parce que, enfin, comme ça, sur le plan symbolique, c'est l'endroit où Georges Méliès a inventé le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, je parle pas de l'invention technique, bon, celle-là, c'est bien, mais enfin, c'est secondaire. Mais l'invention de l'imaginaire, c'est-à-dire Georges Méliès, c'est vrai que c'est le premier cinéaste qui s'est mis à imaginer justement que cette pellicule, que ce truc chimique, ça pouvait être autre chose que de tourner la sortie d'une usine ou un train qui rentrait dans une gare, mais que ça pouvait justement participer à un imaginaire. Et l'endroit que l'on a récupéré, c'est là où il y avait les studios qui, hélas, ont été entièrement rasés avant qu'on arrive. Voilà, donc qui je suis, je suis son bras gauche, je suis son bras droit, ça dépend de quel côté on se met. Mais il raconte aussi assez bien, puis je m'arrête là, il raconte aussi assez bien qu'on lui dit mais qui c'est la personne qui est à côté de toi. Il dit voilà, moi quand je travaille, j'ai un pied dans le système et un pied hors du système. Et quand il dit il y a un pied dans le système, il me montre du doigt.
Et il dit aussi l'amiral.
Ah oui, ça c'est le nom amical qu'il me donne. Monsieur l'amiral, la flotte, etc. Enfin, mais en me donnant ce nom-là, je ne suis pas sûr qu'à l'époque où il m'a donné ce nom-là, je ne suis pas sûr qu'il savait que les seules études que je n'ai jamais faites dans ma vie, c'était pour être marin.
Ça tombait bien.
Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il le savait à ce moment-là.
Est-ce que vous avez des choses à dire, des questions à poser?
Moi, j'aimerais savoir si tu as toujours 6 côtes de chaque côté et que tu t'en sers pour écrire tes mots et pour dire tes mots encore, comme des notes des touches d'accordéon.
Si tu fais comme dans le camp. Hein? Si tu fais comme dans le camp, si tu as toujours des 6 côtes et si tu fais toujours pareil.
Non.
Je reviens. Si. Tu as toujours 6 côtes de chaque côté.
Et non, mais et disons que c'était pour moi la seule façon de survivre. Voilà. Parce qu'il y avait toutes les façons de survivre. Bon, il y a encore, que je porte encore aujourd'hui, c'est par exemple les pieds. Ça, vivre dans un camp. Parce qu'on n'avait pas des souliers, on donnait un morceau de bois, 2 tours de ficelle, et avec ça on faisait le soulier, quoi. Hein? aller travailler, aller marcher dans la neige ou grimper, comme c'était le cas pour les Espagnols à Mauthausen. C'était tout à fait, et aujourd'hui encore, moi j'ai des difficultés, bon, avec les pieds, et je ressens les douleurs que les pieds c'est une chose, mais ça prenait déjà, d'autant plus que lorsqu'on s'arrêtait, on tombait, immédiatement il y avait une balle dans la tête, enfin, ça, les SS, là-dessus, était parfait, quoi. Hein, bon,
mais tu as plus besoin de ça pour écrire et pour dire ce que tu dis.
Et si j'ai un besoin énorme qu'il existe quelque chose alors qu'il n'y a plus rien, alors qu'il n'y a plus que le billet de banque aujourd'hui.
C'était ma question.
C'est ça.
Oui, bonsoir, je me présente, je m'appelle Antonio Mejías, je suis un fils de migrants espagnols de la CNT, de la FAI. Moi, ce qui, je vais vous dire, enfin, j'ai travaillé, mon problème, c'est le poème.
On n'entend rien.
D'accord. Moi, mon problème, c'est de dire à quel moment je fais de la poésie. Quand je marche, que je suis là, dans la campagne, je vois les arbres, ça m'a interpellé. Je dis à quel moment je fais de la poésie, quoi. C'est-à-dire, parce que bon, moi, à un moment, la poésie, ça vient. Voilà, ça m'arrête, quoi. Mais, par contre, je suis capable d'être dehors, d'être dans les arbres, de voir. De voir les oiseaux, de voir les champignons, de voir aussi les gens qui se promènent.
Ben, écoutez, moi, j'habite Montreuil, qu'est-ce que je vois, de gens qui se promènent, des voitures, puis alors, ce par quoi les jeunes font revivre le fascisme, c'est avec la moto. Alors là, ça y va de tous les côtés, ça, vous avez bonne mine. Et à tous les niveaux. Et ensuite, cette espèce de suffocation par les sens.
Comment faut pas y rester.
Ben oui, mais ça veut rien dire. Je vais en Corrèze. Et j'en sors. Avec la Babel maquisarde. Ça s'appelle comme ça. Bon, et question d'y retourner, mais faire quoi? Alors, à partir du moment de faire quoi? Subvention. Ça, pst. Ça, oui, subvention. Alors, tout ça, ce sont les problèmes de l'amiral. Tu t'occupes de ça, moi, je... etc. Hein, mais, disons que... il faut se le créer, cette espèce de confort ou cette espèce de beauté. C'est soi-même qui devons créer les choses. Et là, il y a un moyen par les mots. Hein? Mais disons, quel que soit l'endroit, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Disons, bon, il y a des moments formidables. Des moments formidables. Par exemple, et qui a été déterminant pour moi, ça a été les quelques jours que j'ai passé avec Mao Zedong. C'est un être extraordinaire. Et le soir où j'ai quitté la Chine, il était parmi l'enfant qui s'occupait du cadre de Pékin à ce moment-là, et c'était sur le pont de la rivière Dazhou. Donc il avait fait organiser un repas auquel Mao avait été invité. Et Mao est venu et m'a dit, voilà, le peuple chinois vous fait un cadeau. Voilà, que vous pourrez amener avec vous, mais pas n'importe quel cadeau, un vrai. qui va jusqu'à transformer votre écriture. Alors j'ai souri, mais j'ai quand même fait remarquer que ne connaissant pas le chinois, enfin, je voudrais mieux savoir de quoi il s'agit comme cadeau. Enfin. Et alors là-dessus, elle m'a répondu l'idéogramme. Mais l'idéogramme, qu'est-ce que... disons que ça a été très très... Ces histoires d'idéogramme, moi je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Le traducteur, lui, qui comprenait, mais bon, alors du coup, a attiré un peu l'énervement, parce que, bon, ça, dans le banquet, tel qu'il se faisait, ça avait un côté solennel. Mao Tse-tung donnant à un poète, un petit poète français comme ça, le cadeau de son peuple, enfin. Et ce peuple, c'était l'idéogramme. Et j'ai essayé de... Mais là-dessus, il a expliqué à Wang Chen-si, celui qui me traduisait, il a expliqué que c'était une chose très très simple, puisque l'idée existait déjà chez les savants américains. Hein? Les Américains là-dedans, enfin. Franz Capra, celui qui a écrit les rapports entre la physique quantique, enfin la physique moderne, et les langages orientaux, c'est-à-dire le chinois et l'indien. Et vous avez dû, je l'ai bien lu après, mais enfin sur le coup, j'étais un peu comme ça. Et bon, ce n'est que lentement que, et ça grâce aux amis que j'avais, à Wang Chen-si, à Li Hua, qui est une chinoise magnifique, enfin. Grâce à eux, que j'ai pu, faire le trajet qui m'arrivait en tant que cadeau. C'est-à-dire que, vous voyez l'idéogramme, il est fait d'un trait qui a une signification. Un autre trait qui a une autre signification. Un autre encore. Et quelquefois, ça va jusqu'à 5 traits pour former l'idéogramme qui n'a, lui, qu'une signification, mais qui résume toutes les autres. Voilà. Et il est évident que les savants américains avaient raison, puisque la théorie des quantas, dont la plupart des enseignants se contrefoutent, il y en a certainement quelques-uns qui là-dessus, mais la théorie des quantas aujourd'hui, enfin, on reste déterministe. Vous rendez compte? La bêtise, le déterminisme. Se mettre à proclamer que 2 et 2 font 4. Et tout à l'avenant. Alors c'est pour ça que, disons, pour moi, cette rencontre avec Mao, c'était la troisième et la dernière que j'ai eue, il est mort après. Ma grande idée, c'était de tenir compte de ce qui m'avait été dit, et c'est pour ça que j'ai essayé d'introduire la théorie des quantas dans ce qui était écrit, dans ma conception du théâtre, etc. Et ça n'a pas été évident tout de suite. Et puis brusquement, bonjour, ça y est. J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est qu'un idéogramme? La correspondance. Disons, la correspondance plus que la symétrie, mais enfin, ça participe de la symétrie aussi. qu'est-ce que c'est quand, dans un langage occidental, hein, elle, le symétrique de l'idéogramme? Eh bien, c'est la phrase. Parce que vous avez une phrase, hein, peu importe dans quel ordre, que ce soit le grammatical, que ce soit le philosophique, que ce soit, etc., vous avez un mot. Puis vous avez un mot, puis un autre, puis un autre, et puis un autre. Alors les ressortissants du verbe, ressortissants du sujet, parce que la grammaire est là pour donner un soutien, pour donner une vérité à la chose. Et comment tout ça s'organise, pour arriver. Ben, le tout c'est de prendre conscience qu'il s'agit d'un idéogramme. Et donc de commencer à écrire ses phrases, etc., en fonction de la théorie des quantas, qui est, et c'est ainsi que ça va sortir bientôt le grand livre sur la traversée des langages. Mon éditeur vient de mourir, il a été enterré hier, Verdier, hein. Et j'espère que dès que le livre sort, allez lui apporter sur sa tombe. Voilà.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites actuellement à Montreuil avec la parole errante?
Qu'est-ce que l'on fait à Montreuil avec la parole errante?
Ben, on attend les subventions.
et les flashballs, non?
Non, mais...
Les flashballs à Montreuil, il n'y a pas des flashballs. Qu'est-ce qui se passe à Montreuil?
Ah, ton petit-fils. Il parle de ton petit-fils, là, Gatti.
Moi, je ne connais pas.
Il parle de flashballs, il parle de Joachim.
Ah!
Oui, à Montreuil, il n'y a pas que des subventions, il y a des flashballs aussi.
Et oui, non, mais c'est mon petit-fils qui a reçu. Ça, c'est les rapports police et. D'ailleurs, tous les gens qui ont travaillé, etc., il y a une pièce qui raconte comment mon père est mort, le crâne fracassé, etc. qui s'appelle « La vie imaginaire de l'éboueur Auguste G. » et tout le monde m'a écrit « Auguste, continue. » Ce qui a été d'ailleurs un grand réconfort pour Joachim qui avait son œil. Bon, on espère. Et il vient remarquer déjà le gouvernement, les autorités. Et ça, Brard me l'a bien, hier, me l'a bien expliqué. C'est-à-dire que le procès de l'histoire de l'œil va venir. Alors, on a inventé à Joachim une agitation qui s'était passée 6 mois auparavant, etc. Et avant-hier, on l'a condamné à 7 mois de prison avec sursis.
4.
Voilà la réponse du gouvernement.
Bonsoir. Non mais juste comme ça, excusez-moi, avant de. Gatti dit on attend les subventions. C'est pas tout à fait vrai quand même. Excuse-moi Gatti. C'est-à-dire que pendant 8 mois, il y a eu une grosse exposition qui s'est déroulée jusqu'au mois de juillet sur mai 68. À l'intérieur de cette exposition, il s'est déroulé une série de débats, de représentations théâtrales, représentations de pièces de Gatti, une qui s'appelait Le Joint, l'autre Interdit aux plus de 30 ans, un travail qui a été fait par un groupe qui n'est pas très très loin d'ici, je crois d'ailleurs, qui s'appelle Le Grand Théâtre, et qui a fait un joli travail sur, dans le titre, un travail théâtral, dans le titre, c'est « Gatti, est-ce un nom d'arbre ?» Voilà, c'est une pièce.
C'est très belle.
C'est une pièce sur Gatti. C'est une pièce sur Gatti, voilà. Et puis, sans ça, depuis là, on va. À partir de là, on va recommencer pour l'année prochaine, en 2010. Mais là, régulièrement, il y a un groupe avec lequel on travaille qui est. On a créé une structure qui s'appelle l'Université Populaire de Montreuil et qui, deux fois par semaine, font une série de débats. Il y a eu toute une série de débats là, sur l'Amérique latine qui se sont déroulés. Maintenant, il y a une série de débats sur la non-violence. Voilà. Et puis, sans ça, le groupe qu'on appelle tout à l'heure, qui s'appelait Le Grand Théâtre, continue à faire des représentations, dont une ce soir d'ailleurs. Il y avait une représentation ce soir à Montreuil de Gatti, est-ce un nom d'arbre. Voilà. Les subventions sont les mêmes l'année dernière que l'année prochaine. Hein, je veux dire, donc, c'est plutôt une augmentation de subventions qui pourrait dire, mais hélas, ce n'est pas vraiment d'actualité. Voilà. Sans ça, il y a un projet dont on est en train de monter les possibilités économiques, enfin, financières. Il y a un projet en Corrèze, tout près de la forêt de la Berbérolle, là où il vous a parlé tout à l'heure. Un projet donc d'une création théâtrale l'année prochaine.
Ok, bonsoir. J'avais une question en rouge, monsieur Gatti. J'ai eu l'occasion, c'est un peu un témoignage, de travailler pendant 5 semaines avec des enfants en prison de 10 à 16 ans. Et on était là pour une activité de théâtre. Et tous les soirs, c'est venu spontanément une demi-heure d'écriture. Et tout s'est passé à partir de ce moment-là. Il y a des jours, on oubliait ce moment d'écriture, on nous le rappelait. Et ce moment était devenu indispensable pour eux, parce que, bon, voilà, pour plein de raisons, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et ils nous ont écrit des choses. Ils nous ont écrit des choses absolument incroyables. Et des choses très fortes. Qu'on a bien sûr pas pu garder pour nous, donc on a essayé d'en faire témoignage autour de nous, etc. Et je me suis posé la question, est-ce que l'enfermement, parce qu'ils sont en prison, ils sont enfermés, est-ce que c'est indissociable avec le verbe, la poésie, l'écriture ? Est-ce que le jour où on sera libre, mais manifestement vous avez rayé ce mot, cette liberté, la paix, aujourd'hui, beaucoup de gens, on n'y croit plus. Est-ce que ce jour-là, on aura encore, si on peut encore y croire, est-ce que la poésie existera encore ?
Toutes les expériences que nous avons faites en prison, nous en avons fait au moins 5, dont celle de... comment s'appelle la dernière, là ?
À Fleury-Mérogis.
Dont la dernière, ça a été à Fleury-Mérogis, etc. C'est... Disons, on a fini par choisir comme thème tous les côtés. C'est-à-dire, il y a autant de réactions qu'il y a d'individus. Il y a un des prisonniers, pour vous donner seulement un exemple, un des prisonniers qui a trouvé que c'était pas juste qu'on vienne là. Comme des travaux, etc., qu'il fallait une paye. Alors on lui expliquait que si on attendait une paye ou une chose comme ça, on ne faisait pas d'expérience. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il était corse. Alors il a envoyé 2 cajots de vin rouge. Qui était, lui, sa partie. Et il faut dire que dans la pièce, il a été parfait. D'abord, le premier temps, lorsque vous allez en prison, c'est leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas des prisonniers, quoi qu'ils aient fait, qu'ils ne sont pas des prisonniers de droit commun, tous, ce sont des prisonniers politiques. Il y a une raison politique au fait qu'il se trouve là. Alors, bon, alors ça c'était le départ, le départ de la chose. Et on a fait avec, bon, les mille contradictions, parce qu'il y avait ceux qui ont pensé que le fait qu'on soit là, comment en tirer profit ? Comment alors il y a même eu une, la préparation d'une tentative de nous enfermer et puis de nous prendre en otage. Il y a même eu ce genre de choses, quoi. Bon, mais ça fait partie, disons, de des réalités d'aujourd'hui, quoi. Hein, ce qui importe dans tout ça, c'est la prise de conscience. Et il en est sorti d'ailleurs un spectacle magnifique et qui a fait les jours et les nuits de...
Le combat du jour et de la nuit à la prison de Fleury-Mérogis.
Voilà. Combat du jour et de la nuit à la prison de Villebrun. De
Fleury-Mérogis.
Et donc, voilà. C'est-à-dire que là, la prison, alors il y a un tout très joli, c'est d'ailleurs le Corse, celui des bouteilles de vin. Et alors, il y a eu, pour la première, il y a eu des personnalités officielles qui sont venues, dont le ministre de la Culture à l'époque, qui était Jacques Lang. Et Jacques Lang a toujours été, bon, lui, pour qu'on travaille, et nous a donné... Le prix national du théâtre, et nous, ben il nous a toujours. Et donc il est venu pour assister et pour voir la pièce. Et puis il va voir tous ces. Il y a le ministre de la Culture. Est-ce que. Les interrogations. Et alors, Jacques Lang dit bon. J'ai entendu qu'il était beaucoup question de moi dans les... etc. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Dites-le, je suis venu exprès pour ça, pour dire... pour être... savoir, bon, comment vous vivez, comment vous êtes, comment... etc. Et alors, d'abord, j'aurais une question à vous poser. Là, de cette expérience. Qu'est-ce que vous avez appris ? Et alors, justement, mon Corse, là, moi, je suis plus riche de 200 mots. Pas vous ! Et le ministre a trouvé ça très bien, après... Il a même fait passer par le ministère comme quoi le travail du ministère était aussi positif et aussi etc. Mais c'est pour vous dire, il y a mille façons, il y a comme ceux, mais ça c'était le groupe le groupe qui avait c'était un groupe qui se disait de résistance et qui a tiré sur le directeur de Peugeot, qui a etc. Ils ont et
direct quoi.
Voilà. Oui. Et ce sont eux. Alors eux lorsqu'on commençait, on fait pour la répétition, ils étaient tous à leur fenêtre en train de nous huer. Sortez! J'étais contre. Bon, et alors à tel point que justement, lorsque un jour c'était le directeur de la prison qui m'amenait pour que je puisse aller travailler, alors et nous voyant passer en haut, tous ces gens se hurlaient, etc. Et alors le directeur de la prison dit, mais vous êtes archi connu dans ma prison. Voilà. C'était le genre de... Et donc, maintenant on ne peut plus y aller, alors donc...
Je ne veux plus y aller.
Là, on voulait monter, on avait fait plusieurs demandes. C'était une pièce qui avait vraiment très très bien, fortement. C'était sur la résistance allemande du temps du nazisme, qui avait marché très très fort en Allemagne, hein, et puis qui a été reprise au Canada, etc. Et comme il n'y avait que des résultats positifs, on a pensé que c'était bien de la porter en prison, que eux entrent dans le travail, enfin dans le cas, et ça n'a jamais été possible, toujours un dossier d'un côté, un dossier de l'autre, on refait, on remet, non mais c'est l'impression que j'ai, c'est que continuant comme ça, le théâtre est mort. C'est tout.
Oui, mais pas la poésie.
Exactement.
La poésie est increvable par rapport à ce qu'il dit. La parole est increvable.
Si on ne peut pas partager avec l'autre. Moi, un poème écrit, c'est de... c'est de pouvoir faire partager avec d'autres. Si je le garde pour moi, rien à faire. Et c'est pour ça que, bon, lorsqu'on me demande mon théâtre, c'est quoi ? Ce sont mes morts. Mes morts du camp. Mes morts dans la prison, il y en a eu deux. Et puis, bon, il y en a eu d'autres... mort beaucoup plus lointain, enfin, etc. Et bon, sont mes morts. Il y a même mon père qui a été tué, le crâne fracassé. J'ai deux oncles qui ont été pendus à Chicago. J'ai même la famille dans le théâtre que je fais.
Monsieur, s'il vous plaît.
Oui.
J'ai une question un petit peu plus douce. Je voudrais savoir comment vous avez observé la puissance des mots sur l'esprit des femmes, sur le cœur des femmes. Que vous connaissez très bien, j'ai l'impression.
Je vais vous répondre avant qu'il vous réponde. Il y a eu un film très joli faut demander à Jean, et puis il l'a, qui a été réalisé par son fils, Stéphane Gatti, qui, dans le cadre du siècle des écrivains. Vous savez, il y a à la télévision, il y a un certain nombre d'années, etc. Ils ont fait, donc Gatti a été un des écrivains sur lequel il y a eu un film. Le film a été présenté au producteur, enfin à FR3, qui a trouvé le film très bien, la preuve, et c'est qu'il est passé quelques semaines après. Et il a dit, mais dans ce film, il manque... c'était Gatti sur l'écriture, mais il n'y a pas d'histoire de femme. Et Stéphane Gatti a répondu, ah là, il faudrait faire un film en plus.
Un film en plus.
Non, mais... la femme... c'est divers, l'histoire du féminisme, de la féminité, hein. Il faut prendre chaque être, hein, individuellement, tel qu'il est, hein, pourquoi faire, etc. Lorsqu'ils arrivent à communiquer, moi je sais que j'ai une des plus belles communications de ma vie, hein, c'est-à-dire que il était question... Euh, il était question de traduire un poème très très important de Mao Tse-tung. Enfin, il a été traduit, mais interdit en France. Finalement, heureusement que la Belgique a édité, enfin, etc., etc. Hein. Mais le poème, parce que on a essayé quand même de lutter contre la chose, c'est un des poèmes très. Vous connaissez, Jimo Chang-le, etc. C'est pendant la longue marche, ils arrivent dans un village et il y a une vieille, enfin, une femme qui demande à Mao Tse-tung, mon mari, il est où? Et j'ai perdu mon beau peuplier, votre Chiaoyang. J'ai perdu mon beau peuplier et vous, votre saule. Yang, le peuplier, c'était le nom de sa femme, Mao Tse-tung, qui a été mais dépecé sous ses yeux pendant que lui était sur un toit en train de se. Par le Kuomintang. C'était un être merveilleux, Yang, et Yang a été dépecé. Et alors, d'après les versions, elle aurait même été enceinte, et comme ça, on a tout tué. Il n'y aurait pas de culte des ancêtres en ce qui concernait la descendance de Mao Tse-tung. Hein? Et donc, votre Tiangyang, c'était le poème. Mais, vous savez, c'est pas facile de. Hein, partout, c'était demandé comment traduire. Comment traduire, comment faire, etc. Et alors, voilà la réponse. La femme, c'est un des peintres qui a fait d'ailleurs tout à fait à la fin de la marche, Li Yihua, etc., qui, bon, connaissait le français, mais bon, mettre en français pas assez pour mettre du chinois qu'elle connaissait très bien, en machin. Et alors, comment on a fait? J'ai appris les idéogrammes avec son corps. Voilà. Alors, toutes les nuits. Et on faisait du chinois. C'était formidable. D'ailleurs, Jean-Jacques a. Tu as la photo?
Oui.
La photo de Li Yihua en train de dire un de mes poèmes en chinois. Hein, merveilleux. La femme.
Et alors, Michel Léris, qui est, vous connaissez sûrement le nom, qui est mort il y a quelque temps, qui a fait ce voyage-là, c'était dans une délégation dans laquelle il y avait toute une série d'intellectuels français, dont Michel Léris. Et Michel Léris, il y avait aussi René Dumont, etc., enfin, des gens assez étonnants comme ça. Donc Michel Léris couchait dans la même chambre qu'Armand Gatti. Mais à un moment donné, ils se sont séparés parce que la délégation a été dans plusieurs endroits, etc. Et Michel Léris, dans ses petites notes, note qu'à un moment donné, Li Yihua, sur le court sur le bord de du quai pour dire au revoir à Armand Gatti. Voilà.
S'il vous plaît, Monsieur Gatti.
Jawohl.
Non, nichts Spanisch. Et il y a longtemps. À notre époque, ils arrivaient que tous les 40 ans.
Non, mais c'était pas la peine. Réflexe de camp de concentration.
Voilà. Vous nous avez parlé d'un temps que les moins de 75 ans ne peuvent pas connaître.
Ah, vous êtes un jeune homme, vous.
Oui, bien sûr.
85.
82, bientôt. Vous nous dites que la poésie est importante, j'entends bien, mais vous nous faites la démonstration que ce qui est le plus important, c'est la mémoire. De la poésie, on en a eu pas mal. Sous l'occupation, on nous apprenait depuis le mois de septembre en 1940, nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, bien moins jaloux de partager leur gloire que de leur cercueil. L'air, vous le connaissez tous. Plus tard, il y a eu Daniel Claris qui a écrit un poème, Les moins de 30 ans. On parlait interdit aux plus de 30 ans. Vous voyez, nous, c'était les moins de 30 ans.
Oui.
Et on disait, nous sommes devenus bulldogs parce qu'on nous a appris durement à mordre et ne sommes pas prêts d'en démordre. Voyez-vous, il y a autre chose aussi. Un militaire nous a dit, j'ai fait le don de ma personne à la France. Il a fait le don aux Français d'une maxime, les Français ont la mémoire courte. Alors, de tout ce que vous nous avez dit, il semblerait que c'est surtout la mémoire qui vous anime. Est-ce que je me trompe?
Je n'en ai plus en ce moment. Plus d'âme.
On y est tous, on y passe tous à cet endroit.
Ben oui,
donc, on a quand même certaines mémoires anciennes.
Non, c'est pas. C'est ce que j'ai vécu, c'est pas en tant que mémoire, c'est en tant que rapport avec être humain, bon, etc. Et même rapport imaginé, hein, lorsque j'étais tout petit. Les histoires de Chicago, parce que même mon père a été, par les Pinkerton, a été mis dans un sac, transpercé de coups de poignard, et jeté dans le lac Calumet, près de Chicago. Là-dessus, c'est pas une question de mémoire, c'est une question de ce qui s'est passé et comment moi, dans le contexte qui était le mien, je pouvais le vivre. C'est tout. Parce que bon, il y a mille choses là. Tout à l'heure, ne fût-ce que les morceaux de poèmes. Voilà. Disons, ça a été toute une histoire. Alors, j'ai même inscrit, essayé de me rappeler avant, inscrit sur un voilà. Alors, seulement le début, de façon, si jamais j'avais un trou, tu vois, nocturnes océans, peuplés de sphinx brumeux. Ça, c'est le premier. Deuxième, ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres.
Donc c'est bien la mémoire, plus la poésie.
Hein?
Donc c'est bien la mémoire.
Non, ça c'est de la poésie. Alors, c'est un écrit. Ça n'a rien à voir avec la mémoire.
Il accepte pas le mémoire. Il accepte pas le mémoire.
Je suis tout à fait d'accord avec la mémoire. J'ai pas vécu ça. Je suis née en 1952. Bon. Mais et ce que vous dites me fait penser à ce que j'ai lu de Primo Levi qui s'arrachait les fragments de Dante et apprenait l'italien à un de ses compagnons. Bon, il s'arrachait des morceaux de Dante de la mémoire pour apprendre l'italien à son compagnon sans remuer les lèvres parce qu'il ne fallait pas bouger. Bon, il y a la mémoire, mais il y a aussi l'imaginaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Il y a une dame qui a posé une très très jolie question sur les femmes et sur l'imaginaire aussi, et vous avez très joliment répondu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec nos imaginaires d'hommes et de femmes, sachant que tout est complètement écrasé, et surtout l'imaginaire? Vous parliez de Jacques Lang sortant d'une représentation à Fleury-Mérogis et disant c'est merveilleux, mais on peut en faire tout ce qu'on veut. Je veux dire, j'ai l'impression maintenant qu'on vit dans un monde où les mots peuvent se retourner comme des crêpes, servir aux uns et aux autres, et quoi qu'on essaie de faire avec, moi personnellement, j'arrive plus à m'en servir des mots. Je peux plus, je ne sais pas, j'ai l'impression que ils nous échappent. dès qu'on est saturé d'imaginaire, saturé d'informations, saturé de corps, saturé de signes qui ne veulent rien dire, qui sont récupérés, qui passent à la trappe, qui ressurgissent, qui sont mélangés, c'est une espèce de machine à laver de l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, vous lisez les textes sacrés. Hein ? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu.
Oui. En hein? Inde, il y a aussi
ben, les commencez par ça. Voilà.
Je reste sur ma faim.
Oui, mais vous restez sur du vide, attention. Et dans le vide, vous...
Alors, monsieur Gatti, je vous avais parlé de théâtre, de poésie, j'aurais aimé que vous nous parliez de L'Enclos, qui est un film que je recommande à tout le monde d'en regarder, qui est absolument extraordinaire.
L'Enclos ?
Oui.
Ben, là aussi, hein, c'était un film. Bon, moi, c'était mon expérience des camps. Et j'ai voulu à tout prix, en apprenant certaines choses qui s'étaient passées, j'ai voulu à tout prix qu'il y ait au moins que ces choses-là soient dites. Parce que, en général, disons, tout ce qui touche le sujet, c'est d'un commercial terrible. Enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet, rien. C'est uniquement essayer de raconter des histoires qui feront rentrer de l'argent, c'est tout. Et donc, L'Enclos, ça a été très... ce désir de faire enfin quelque chose, pour moi, de vrai sur les camps, et ne fût-ce que pour mes morts, pour ceux que je ne verrai jamais plus, pour ceux, etc.
Et oui, donc, pour expliquer, c'est que la
production
est extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de musique, c'est vraiment de la voix, et c'est très surprenant, c'est ça que je veux dire.
Et bon, et non, mais ça c'est... J'ai essayé de suivre la logique du camp.
Ouais.
Bon, là, il y a un peu de musique à un moment-là. C'est l'orchestre du camp qui joue.
Oui, oui.
Et disons que... Mais alors, faire un film là-dessus, j'ai commencé à... Ça a été partout. Oh, on ne fait pas de film sur les camps de concentration. C'est pas... Partout. Alors, la commission des avances du film... a accepté. Il y avait au moins une petite possibilité parce qu'en général et là-dessus c'est de l'histoire sans intérêt, mais je suis quand même le recordman des films interdits par la commission des avances. J'en ai 10. Hein? Einstein n'en a eu que 7. Voilà. Et donc c'est essayer de faire le film. Alors partout c'était toujours le même argument. On ne fait pas un film chez les producteurs. Alors que on disait aux producteurs, il y a une avance petite, mais on se débrouillera à l'agrandir, etc. Le tout, c'est de lancer le film. Non, on ne fait pas un film avec comme vedette un communiste allemand et un juif français. Non. Là, ce n'est pas des personnages pour le cinéma. Et partout, hein. Et surtout, la chose était d'autant plus pénible lorsque le producteur en question était juif. Bon, mais il avait souffert
suffisamment peut-être pour tenir ce langage, mais en tous les cas, il ne pouvait pas être le mien. Hein? Finalement, le film s'est fait. Parce que bien, je n'ai jamais fait, jamais, un film en France. Alors, celui-là, je l'ai fait comment, l'enclos? Ben, il s'est trouvé que j'avais Kaučić, un ami yougoslave, etc., et qui connaissait bien la femme de Tito, a pris le scénario, l'a apporté à la femme de Tito, qui l'a lu, qui s'est enthousiasmé pour vous, et qui l'a donné à son mari. Et le jour même où elle l'a donné, le soir même, Tito téléphonait au studio de Ljubljana, prière de faire le film L'Enclos qui va vous arriver. Voilà. C'est grâce, le premier film qui a pu se faire, c'est grâce au maréchal Tito. Tout est à l'avenant. Même Hubert Gang, Hubert Denebro, fait en Allemagne, hein, c'est un film sur... il a un nom allemand parce qu'il a été fait en allemand. C'est le passage de l'Ebre. C'est l'Espagnol émigré qui a fait... Et que finalement, voit qu'il n'y a qu'une solution... Hein, à sa révolution perdue, c'est d'aller la faire en Espagne et pas de jouer les émigrés ici. Et ça a été mais bloqué de tous les côtés, enfin, pas question. Et alors, et ça a été en Allemagne, grâce à un directeur de théâtre, le théâtre de Cassel, qui montait régulièrement mes pièces, hein, qui a trouvé scandaleux l'interdiction, et qui a dit, bon, lui-même, directeur de théâtre, est allé voir la télévision, et a dit, je demande à ce que vous fassiez, alors quelque chose qu'on exploitera, théâtre allemand, enfin, etc., etc., ça c'était. Et donc, la télévision a accepté, et Blech, Hans Christian, hein, c'est pour ça que les discussions sur le thème... il est venu... c'était lui, le héros de L'Enclos, qui jouait le communiste allemand dans L'Enclos. Mais comment il y est venu? Hein? Il y est venu lorsqu'il a su que j'avais les difficultés, etc. Alors lui, qui était vraiment un acteur très connu, une vedette, enfin, même convoqué par Hollywood, enfin, etc., a fait en sorte que, m'envoyant une lettre, il était dit « Je suis prêt à venir tourner votre film à une seule condition, c'est de ne pas être payé. » Alors l'histoire, surtout que les journaux l'ont repris, mais ça... Et c'est lui qui s'est... évidemment, le film L'Enclos, après, en Allemagne, a eu un très, très... Enfin, des répercussions dans chaque ville. C'était les villes qu'il achetait pour les mettre dans le répertoire de la mairie, de le machin, etc. Ça a été vendu à... disons que le film a été tourné en Allemagne, etc., et avec toute une série de personnes qui venaient là en disant, bon, le matin, alors je donnais rendez-vous le matin, ceux qui pouvaient venir ou quoi, enfin, etc., qui venaient, et puis je leur proposais pour la journée... tel rôle, etc. Donc je l'ai fait. Les acteurs étaient des volontaires. Et ça, c'est à une importance. En Yougoslavie, c'était formidable. En Yougoslavie, j'allais au bistrot le soir. Bon, Il m'en faut deux. Ça parlait, ça. Deux. Alors, etc. Puis, finalement, bon. Tu les auras. Et je les avais. Alors, le jour où on a tourné les trucs de l'appel Platz, hein, c'est-à-dire la place des appels, le jour où on a tourné ça, alors je suis allé au bistrot, je dis, il m'en faut 200. C'est comme ça. Et puis ils sont mis à chanter. Les consommateurs du bistrot. C'est pour ça que le bistrot, ça. Ouais. Les consommateurs. Et le lendemain, ils étaient là. Et tous, avec le crâne, avec la Hitlerstrasse au milieu du crâne, bon, comme c'était le. Etc. Et ils sont tous arrivés comme ça, et on a tourné. D'ailleurs, vous pouvez les voir, ils sont dans le film, tel qu'on est, etc. C'est-à-dire que là, c'est pas un commerce, ce que c'est devenu le cinéma. Le commerce de l'image, d'ailleurs, on a qu'à voir les journaux, l'infamie, il n'y a plus que la vie du cinéma, surtout en Amérique où c'est le style le plus, etc. Il y en a plein, il y a que ça, quoi. En tout cas, le cinéma tel qu'on le voyait à mon époque, tel qu'on le discutait, et les quelques groupes qui se faisaient, c'est l'époque de René, de Varda, de Chris Marker, etc. Enfin, disons que c'est fini, il n'y a plus rien. Alors, essayez de penser à un avenir, c'est foutu. C'est foutu. Voilà. Hein? Mais on reste toujours quelque chose qui est imprenable. Hein? C'est. Hein? Bon, ce qu'on peut dire à l'autre. Voyez-vous, il y a une des choses qui m'a beaucoup ému, ça a été au moment de l'interdiction de la passion du général Franco. Plus personne. Et alors Malraux me téléphone, dit bon, je vais en parler à De Gaulle ce soir, enfin, etc. Et moi j'étais et je me souviens à l'époque j'étais, enfin, alors j'avais la barbe qui poussait, enfin, c'est toujours en train de comme ça, et Malraux me dit non, je rentre dans son bureau, fait rentrer, et il me dit non, pas là, pas en face, à côté. Et moi j'ai cru qu'il me disait ça parce que je faisais toutes mes. Et que lui, il avait été un Hollandais. Et que. Il était désireux de ne pas. Qu'il n'y ait pas un cinéma. Réel. Qui s'établisse entre les deux, quoi. Et il m'est à côté. Puis il m'explique. Il a vu que. Écoutez. Nous sommes les deux seuls à avoir appelé la guerre d'Espagne espoir. Voilà. Non, mais oui, tout ce qui rentre dedans. Bon, allez. Il est évident que même en Allemagne, parce que j'ai été dans l'obligation de partir, hein. Et donc je me suis établi à Berlin. Et que là, enfin, j'ai essayé toujours, c'était pas l'allemand, etc. Mais j'ai rencontré une espèce de un personnage providentiel qui était Ulrich Meinhof, etc. Et bon, et c'était bon que les policiers m'ont tué, enfin, parce qu'ils l'ont ouvert le crâne. Parce que là aussi, l'histoire d'Ulrich est terrible. C'est que, hein, la science allemande, c'est qu'elle est. Les médecins, tout ça, les médecins. Mais, hein, vous savez comment Jarry les appelait? Comment? Jarry? Oui, il les appelait comment? Non, il faut pas le dire. Hein? Bon, on ne le dira pas.
Les mères de saints.
Voilà. Alors, je suis pas de la... je suis arrivé à Jarry, mais je venais d'où?
Ulrich Meinhof.
Ils l'ont. C'est-à-dire que Ulrich, ce sont les savants allemands. On lui a enlevé la tête, on a pris le crâne, et puis on a analysé. Et le résultat de l'analyse, c'est que toutes ces prises de position politique étaient inscrites sur ces circonvolutions cérébrales. Hein? C'était un passage du Coran, quoi. Mektoub. Hein, c'est déjà écrit là-haut, alors comment veux-tu faire, enfin? Voilà.
Bon.
El compañero este está cansado.
Ah,
entonces.
No, tengo hambre.
Bueno.
Merci. Je pensais tout à l'heure, parce que vous avez fait comme ça, un vol d'oiseau, vous avez survolé le siècle. Non, mais à propos de sidéogrammes. Parce que depuis ma jeunesse, ça me semblait quand même quelque chose d'extraordinaire, quand même. Alors, il paraît, parce que je ne l'ai pas vérifié, que le chinois, pour nommer le sage, la sagesse, et par exemple vous, moi j'estime que vous êtes un sage, eh bien, si c'était un chinois, qui devait rendre compte dans un journal chinois de la rencontre, il paraît que pour nommer le sage, il se sert de deux idéogrammes surtout. Un, c'est la foudre, et l'autre, le vent violent. C'est-à-dire, c'est tout le contraire de l'idée qu'on s'est fait en Occident, que ça fait un peu... Le sage, c'est une image de, je sais pas, de ramolli, de vieux, je sais pas quoi. Oui, enfin, je sais pas. Et donc, la personne dont je tire cette information soulignait que la foudre, parce qu'elle frappe avec une précision mathématique, et puis le vent, parce que... oui, voilà, alors, bon... Bon, c'est tout, c'est pas grand chose, mais bon, vous avez parlé du livre de Malraux, de la traversée de l'Ebro. C'est pas grand, ça m'interpelle beaucoup parce que je suis espagnol, je suis franco-espagnol universel.
De l'Ebro, balaboum, balaboum.
Voilà, voilà.
Una noche que yo paso, ay Carmela. Ay Carmela, una noche el río pasó. Ay Carmela, ay Carmela.
El ejército del Ebro, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bamba. Una noche el río
pasó. Bumba la bumba la bumba bamba. Una noche el río pasó. Ay Carmela, ay Carmela.
Est-ce que...
il furore
Sant'Entro vient pour
moi. Che le signore buona palizza le dio. Ai Carmela, ai Carmela.
Bon, pour que vous sachiez la Chine, c'est que... Non, ça va pas. Bon.
L'armée de l'Hébron, donc c'est le républicain que, dont une partie est venue après se réfugier en France. Et donc il chante cette bataille qui était très importante pour la République. Il dit une nuit l'armée de l'Hébron a traversé et puis les armées adverses, les armées franquistes, ils sont reçus une bonne raclée, comme est-ce qu'on peut dire, forcément.
Buena paliza.
Voilà, una paliza, ça veut dire. Ils ont eu leur compte, voilà. Bon,
mais simplement, je me permets de vous dire qu'après-demain, à Oviedo, on joue La Palabra Errante.
Oui.
Il y a toute une semaine qui est consacrée, etc. Bon. Et dans trois jours, on monte à Madrid La Passion del General Franco.
Oh là, alors, non, là, ça me donne des crampes à l'estomac, le titre seulement.
Mais non, c'est dans trois jours.
Dans trois mois.
Non, mais en Espagne, c'est bien.
Bon, ben, merci. Je peux terminer par une citation. C'est le début de La Parole Errante, le livre. Bon, j'ai pas tout lu, hein. J'en ai encore pour un moment parce que moi, bon, c'est vrai que. C'est vrai
que... Ça vient de quoi, la parole errante, par exemple. Parole errante. Ça vient simplement du fait, que mon grand amour, elle avait 16 ans, moi j'en avais 16 et demi. Hein? Alors, moi j'étais fils du balayeur à Monaco. Et elle, c'était la fille du bijoutier, du plus grand bijoutier près du casino, le Gompers. Et déjà, vous voyez que le concept de lutte de classe était inapplicable là-dessus. Et disons. Bah, elle était merveilleuse. Et elle. Bon, on a eu, disons, la seule dispute, enfin, dispute non, parce qu'on est toujours restés ensemble, mais le seul sujet, c'était Nietzsche. Moi, à l'époque, je disais Nietzsche, c'est un facho, c'est un etc. Et disons que et elle, non, il n'y a qu'une personne ici en Europe qui défende les Juifs, c'est Nietzsche. Et oui, ce qui est vrai. Et donc il y a que lui. Et alors bon, on a eu quelques petites, mais tout ça s'est fait. Et puis un beau jour, hop. Alors on m'apprend que elle et toute sa famille sont partis pour Auschwitz. Ben, c'était pas Auschwitz, c'était ici près de Paris, hein, et de là Auschwitz après, mais ils en savaient rien, hein, etc. Et qu'il y a un livre de bataille sur Nietzsche qui est apparu à ce moment-là. Courageux, et l'éditeur et le machin, parce que justement, hein, il reprenait la version de Nicole, hein, dans son livre Henri Bataille, et il expliquait que, comme quoi l'anarchie a un écrivain, c'est Nietzsche. Il n'y en a pas deux. Et j'apprends le départ de Nicole. Et Nicole, parce que j'ai beaucoup essayer de reconstituer après. Alors je sais qu'elle est morte, enfin, qu'elle a été devant la chambre à gaz, déshabillée devant la chambre à gaz numéro 4, qu'elle a été liquidée là-bas avec d'autres femmes juives et leurs enfants, etc. Et ensuite, que, bon, apportée au crématoire. Et j'ai essayé de savoir s'il y avait eu des mots, qu'est-ce que... Et la chose, finalement, c'est les sondaires commando qu'on a retrouvés dans les cendres. Qu'est-ce que... Elles avaient chanté, ces femmes, dont Nicole, hein, une phrase. Nous ne sommes rien, soyons tout.
Alors, juste avant que tu reprennes la parole, je me suis dit comme fin, s'il n'y a pas de fin, c'est en reprenant les premiers mots de ce bouquin de Herman Gatti qui s'appelle La parole errante. Les premiers mots, c'est l'infini est une région, il faut s'y diriger. Alors je voulais te remercier de nous avoir mis quelques cailloux blancs, plutôt noirs, voilà. Donc quelques petits cailloux. On va essayer de s'y diriger, mais il y a la question de l'infini.
Je finis et après je. Simplement que, hein, ce n'est que. Lorsque j'ai appris tout ça, que j'ai appelé ce que j'allais écrire, la parole errante, et je voulais qu'il y ait un souvenir de Nicole, quelque chose. Elle était juive, il y avait le juif errant comme notion. Et j'ai voulu, en quelque sorte, rendre hommage à Nicole, hein, comme si je lui donnais mon écriture, ce que j'allais faire, la parole errante. Voilà.
Merci. Merci Jean-Jacques. Voilà.
L'acteur, c'est l'acteur, lorsqu'il est content et heureux de ses spectateurs, qui va et applaudit. Alors voilà.
Alors, ne partez pas. Au fait, je viens de me rappeler que la dernière fois, quand tu avais fait venir, c'était à Nevers, il y a 10 ans. Suite à ta venue, on s'est fait virer à Corbigny. Je sais pas ce que ça va devenir là, mais donc c'était il y a 10 ans. En tout cas, si je sais que t'es pas mal occupé, aujourd'hui tout le monde est très occupé, donc on te donne rendez-vous dans 10 ans, on sait pas où, mais on te donne rendez-vous. Quoi.